Seigneur, nous, d'abord, nous voulons tout simplement, encore une fois, proclamer que tu nous suffis. Nous proclamons que tu es ce grand Dieu qui nous a appelés, ce grand Dieu extraordinaire, tout-puissant, rempli de sagesse et de bonté, juste, véritable. Et Seigneur, je te remets ces instants, Seigneur, pour que tu me donnes cette capacité de transmettre ta parole avec sagesse, discernement, et qu'à chacun de nous, tu nous donnes aussi cette capacité de recevoir cette parole pour notre croissance, pour notre, oui, notre croissance spirituelle. Amen. Alors, je n'ai pas écouté la série de Colossiens ici, mais on va continuer cette série. J'ai participé à une autre série ailleurs, de Colossiens ailleurs. On va continuer aujourd'hui notre série sur Colossiens avec Colossiens 3, les versets 1 à 17. Alors, l'épître aux Colossiens ça vibre là, c'est moi qui fais vibrer tout ça. Je ne touche plus à rien. L'épître aux Colossiens, rédigée alors qu'il était en prison, est attribuée à Paul. La plupart des croyants de cette église étaient des païens, bien qu'on savait à cette époque-là qu'il y avait de fortes communautés juives un peu répandues partout dans le monde grec, on va dire. Comme vous avez pu le voir au chapitre 2, si cette lettre de Paul vise à édifier... Oh, j'ai fait une bêtise. Ouh là là, oh, ça va trop vite. Je dégaine trop vite. Non, c'est mon nordique qui est un peu sensible. Alors, vous avez vu, cette lettre de Paul, elle vise, bien entendu, à édifier la communauté. Mais vous avez aussi pu voir qu'elle vise aussi à lutter contre des faux enseignants qui menaçaient l'église de Colosse. Dans le chapitre 2, Paul rappelle aux Colossiens, comme à nous, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Pas besoin de chercher ailleurs. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ et nous l'avons chanté, Christ suffit. Nous arrivons au chapitre 3 où nous allons progressivement quitter la partie doctrinale de l'épître qui évoque des réalités spirituelles pour entrer dans la partie pratique. Alors, nous n'allons pas lire le texte tout de suite, on va le lire progressivement pour ne pas rallonger la prédication, on va lire verset par verset ou section, petite section de texte par petite section de texte. Mais parce que Paul, hein, ce n'est pas moi qui l'ai dit en premier, n'est pas toujours facile à comprendre. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec moi, hein? Il me semble que ce n'est pas si facile que ça à comprendre. Et en tous les cas, moi, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai de la peine. Et je dois beaucoup travailler pour essayer de comprendre ce qu'il veut nous dire. Et je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Je crois qu'il y a un grand apôtre qui l'a dit 2000 ans avant moi. Mais n'empêche que son message est profond. Alors, pour essayer de le comprendre, j'ai essayé de résumer, alors de façon certainement pas complète, un petit peu quelle est l'intention de Paul dans ses épîtres, et en particulier dans cet épître-là. La vie chrétienne, pour Paul, s'articule entre la grâce, qui est le don de Dieu, et notre obéissance, rendue possible justement par la grâce. Comme idée centrale de ce texte, je propose « Soyez ce que vous êtes déjà ». Et je vais exposer cela en trois parties. Première partie, « Ce que vous êtes déjà ». La partie doctrinale. Ensuite, soyez par la confrontation frontale au péché. Et troisième point, soyez par la confrontation indirecte au péché. Alors, j'ai fait exprès de laisser un petit suspense parce que, voilà, c'est un petit peu bizarre ce que je dis, mais c'est pour garder votre attention jusqu'au bout que j'ai choisi cela. Alors, commençons par ce que vous êtes déjà. Alors là, il faut quand même, je vous dis, accrocher votre ceinture parce que ces quatre versets que nous allons lire ne sont pas si simples à comprendre. Donc là, après ces quatre versets, on pourra décrocher la ceinture, mais il faut s'accrocher un peu là. Lisons les versets 1 à 4. Qui constitue quelque part un sas de transition entre la partie doctrinale qui précède et l'invitation des croyants à vivre selon leur statut en Jésus-Christ et que Paul va expliquer par la suite. Bon, lisons ces quatre premiers versets. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort. Vous avez connu la mort. Et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Allons-y. Alors, Paul utilise dans ces versets, et c'est souvent le cas dans ces épîtres, un raisonnement logique. Par la formule « si donc », Paul établit un lien avec la partie doctrinale qui précède. Le « vous êtes ressuscité avec Christ » associé à « vous avez connu la mort » signifie que le croyant est une nouvelle création et qu'il siège dans le ciel, là où le Fils glorifié règne à la droite de Dieu. Droite de Dieu qui est le lieu de la sainteté, évidemment, mais aussi de l'intercession. Parce qu'on sait que Christ intercède pour nous, comme l'Esprit, l'Esprit Saint, Romains 8, intercède en nous. Mais c'est aussi le siège de la toute-puissance de Dieu, de son omniprésence. Alors, en réponse à cette réalité spirituelle, Paul demande expressément aux chrétiens « cherchez les choses d'en haut » ou « attachez-vous aux réalités d'en haut ». Vous rappelez, les Colossiens étaient tentés par le mysticisme, ils tournaient leur regard vers des anges, en disant pour le salut, Christ, c'est bon, mais c'est pour le passé. Nous, beaucoup plus spirituels que vous tous, on regarde des choses beaucoup plus importantes. Bon. Donc, Paul veut les amener à regarder qu'à Jésus-Christ, en qui habite, ce que nous avons lu dans chapitre 2, la plénitude de la divinité et en qui nous avons tout pleinement. Paul oppose ici les réalités d'en haut à celles d'en bas, les choses d'en haut à celles qui sont sur la terre. Alors j'ai oublié de vous dire, j'utilise la version second 21, un peu dans mes textes. Mais les choses de la terre ne désignent pas la vie physique, matérielle, culturelle, sociale que nous vivons tous. Chez Paul, c'est très compliqué ça, parce qu'il faut bien comprendre ce qu'il veut dire là-dedans. Cela signifie pas tout cela, ça signifie uniquement l'usage négatif qu'on fait de tout ça, l'idolâtrie, le péché qu'on peut en faire. J'ouvre une petite parenthèse, Paul il parle souvent des choses de la chair. Alors, il ne faut pas confondre la chair avec notre chair à nous. Ça ne veut pas dire que le corps est quelque chose de mauvais. Au contraire, Paul revient là-dessus. Mais la chair, ça représente le péché, le mal qui est en nous. Voilà, je fais cette petite clarification. Je ferme la parenthèse. Les choses d'en haut désignent tout ce qui appartient à la vie spirituelle, à l'existence et au monde nouveau dans lequel les chrétiens sont entrés. Vous êtes d'accord avec cela ? Vous tenez bon ? Tenez bon encore, il n'y en a plus pour très longtemps. Le « vous avez connu la mort » du verset 3 fait allusion à la conversion et à la régénération. Donc voilà, vous avez connu la mort, ça paraît un peu bizarre, mais simplement ce que veut dire Paul, vous êtes né de nouveau, comme le dirait Jean, où vous êtes une nouvelle création, selon le langage de Paul. Par la foi, libéré du péché et de la mort, le croyant reçoit le Saint-Esprit pour devenir une nouvelle création, c'est tout simple. Il est justifié, rendu juste par Dieu, en dehors de tout mérite de sa part. Il est réconcilié, en paix avec Dieu, qui n'est plus en colère contre lui. Par conséquent, votre vie est cachée avec Christ en Dieu suggère que notre vie appartient réellement au monde invisible. Cette vie cachée marque aussi le temps du, qu'on appelle souvent du déjà pas encore. Le royaume de Dieu est déjà présent dans ce monde à travers l'Église, le sel et la lumière du monde, mais pas encore pleinement réalisé parce que Christ n'est pas encore là et le péché est toujours là, les souffrances sont toujours là. Nous sommes dans cette période de transition qui est le temps aussi de la sanctification, de la transformation graduelle à l'image de Christ sous l'action de l'Esprit. Justement, Paul va donner par la suite un contenu pratique à la sanctification personnelle d'abord, puis communautaire, familial, professionnel, etc. Enfin, au verset 4, viendra alors le temps où Christ, notre vie, apparaîtra. Jésus, notre sagesse, notre justice, notre rédemption, notre espérance, le Christ crucifié, paraîtra triomphalement avec son Église, jusqu'alors cachée en lui. L'Église apparaîtra à côté de son chef, sans tache ni ride, comme une épouse parée pour son époux. Les disciples prendront alors part à la gloire de Dieu. Dans leur corps ressuscité, il faut que je tienne, dans le nouveau ciel et sur la nouvelle terre, ils ressembleront parfaitement à leur maître et plus rien ne les séparera de Dieu. En quelque sorte, ces quatre versets nous résument tout le message du salut. Dit de façon un peu imagée, nous sommes assis avec Dieu dans les... Enfin, nous sommes... Nous regardons les choses d'en haut. Nous sommes d'en haut. Nous ne sommes, nous sommes plus d'en bas, nous sommes d'en haut. Alors, comment résumer ces quatre versets? D'abord, on pourrait le résumer en utilisant un verset d'Éphésiens, chapitre 2, verset 6, qui dit « Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Et nous avons un cantique qui nous dit « Assis avec Christ dans les lieux célestes. » Vous vous rappelez ce cantique? Alors, en tant que nouvelle création, puisque nous sommes de nouvelles créations, qui avons reçu toutes les bénédictions de Dieu, tendez là où Jésus-Christ est, vers le ciel, non vers la terre. Et enfin, notre vie est cachée avec lui en Dieu. Elle est cachée, elle ne se voit pas, mais elle sera manifestée dans un temps, lorsque le Christ reviendra. Bon, maintenant vous pouvez desserrer les ceintures. Nous sommes maintenant conscients de tout ce que nous sommes en Jésus-Christ, toutes les bénédictions spirituelles que nous avons reçues. Passons aux choses pratiques, et c'est beaucoup plus simple à comprendre. Donc, soyez par la confrontation frontale au péché. Alors, cette section expose un double mouvement de la sanctification que symbolise le baptême, hein, le dépouillement du vieil homme et le revêtement de l'homme nouveau. Commençons par le dépouillement avec les versets 5 à 8. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Alors, Paul n'appelle pas le croyant à se faire violence pour détruire les pulsions mauvaises. Rappelez-vous, au chapitre 2, il combat l'ascétisme. Alors, on pourrait lui dire, mais Paul, là, tu nous dis de faire ça, puis quelques versets avant, tu nous dis qu'il ne faut pas qu'on devienne des ascètes. Là, Paul, ta pensée est extraordinaire, mais je ne comprends pas. Mais c'est très clair, pourtant. Pourquoi c'est clair? Parce que nous sommes une nouvelle création. C'est ça qui fait la différence par rapport à l'ascétisme. Nous sommes appelés ici à saisir, c'est pour ça que j'insiste sur la nouvelle création, à saisir par la foi qu'en Christ, le croyant est une nouvelle création. Par conséquent, le fait donc mourir et le renoncer qui marque la confrontation frontale directe contre le péché et le mal devient possible. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Cette confrontation frontale, en fait, elle accompagne notre sanctification tout au long du cheminement terrestre. Paul dresse une première liste qui touche l'être intérieur, le corps, le cœur de l'homme, qui vise les choses d'en bas, qui représente les choses d'en bas. D'abord, l'immoralité sexuelle, que la Bible appelle aussi fornication et qui est l'acte sexuel en dehors du mariage. Je vais le lire lentement, comme ça chacun, on pourra tous laisser l'Esprit Saint nous parler. Deuxièmement, l'impureté en général, avec une connotation de perversion, évidemment. Alors, bien sûr, dans notre monde, il y a la pornographie, qu'est-ce qu'il y a comme choses impures, et la publicité parfois, c'est effrayant. Mais déjà à l'époque, c'était comme ça, il ne faut pas le croire. Parce que l'homme est le même, simplement l'expression est différente. L'expression du mal est différente. Ensuite, le troisième point, les passions. Les passions, ici, il faut le comprendre comme des émotions incontrôlables, mais qui ont une connotation que donne le mot grec de passivité. Nous avons des passions, mais qui sont là. Voilà. Après, les mauvais désirs. Et c'est là un lien avec le précédent. Les mauvais désirs, c'est la convoitise. L'avidité de l'ego qui nourrit les passions se complaît dans l'impureté étant à passer à l'acte. Mais cette convoitise est aussi à la racine de la cupidité, la soif de posséder, considérée dans la Bible, tout au long de la Bible, comme une idolâtrie. Je crois que j'ai oublié de presser là-dessus. Si dans le monde gréco-romain, comme aujourd'hui d'ailleurs, la liberté des mœurs ne choquait pas. Dans le monde gréco-romain, ce n'était pas choquant de faire tout cela. Ce qui était plutôt choquant, c'était l'excès. C'est-à-dire qu'on ne condamnait pas tout cela, mais quand même, l'excès, il ne fallait pas exagérer, quoi. C'est un peu comme aujourd'hui, un peu, hein. Ça ressemble vraiment à notre époque. Mais il n'y a pas de doute. Toutes ces choses que le monde d'aujourd'hui pratique, c'est condamné par la Bible. Et cela enclenchera le jugement de Dieu. Au verset 8, Paul fournit une deuxième liste de péchés qui touche plutôt les relations sociales et l'expression verbale, si on regarde bien dans les détails, d'un sentiment mauvais. Si on considère que le sortir de votre bouche, qui est à la fin du verset, correspond aux cinq mots qui précèdent. La colère. Alors la colère, on dit ça, on dit la colère, mais ce n'est pas tellement la colère qui est visée ici. C'est ce que produit la colère en nous. La colère, c'est une émotion. Une émotion, c'est un warning, comme sur un moteur, quand il y a les pneus, ça chauffe. C'est un warning. Mais qu'est-ce que je fais de ma colère ? De cette colère, s'il se dégage des choses violentes, alors oui, c'est un péché, la colère. Lorsque la colère illégitime s'exprime, elle est l'expression de méchanceté, d'un cœur irrité. Alors oui, ce sont les choses d'en bas, ce sont les choses de la terre. La fureur qui va encore plus loin, ou l'emportement qui désigne les mouvements d'humeur et qui agresse une ou des personnes. Oui, ce sont là encore des choses d'en bas. La méchanceté, alors dans le mot grec, il faut voir méchanceté ou malice, désigne les bavardages méchants au sujet ou à l'adresse de quelqu'un. Les bavardages méchants. Qu'est-ce qu'on peut entendre sur Macron en ce moment, hein ? Ouais, ce sont des bavardages méchants. Pas que lui, hein. Je vous rassure, mais voilà. Voilà des bavardages méchants. Et ça va plus loin. La calomnie. Elle fait beaucoup de tort aux autres, puisqu'elle colporte des choses fausses à leur sujet. Et enfin, la grossièreté. Alors, on pourrait le définir comme discours, je prends une définition que j'ai trouvée quelque part, discours insensé, obscénité, parole à double sens, propos honteux. Ça peut être tout ça. Discours insensé, obscénité, parole à double sens, propos honteux. Ce terme dénonce finalement tous les excès de langage et n'a pas sa place dans la bouche des croyants qui sont attachés aux choses d'en haut. Tout ça, ça fait partie des choses de la terre. Maintenant, alors est-ce que j'ai... Non, ça n'a pas marché. Voilà. Est-ce que ça marche ? Poursuivons avec les versets 9 à 11. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Alors, pour éviter tout malentendu, hein, précisons que, à l'époque, quiconque n'était pas grec, pas juif, était un sauvage ou un barbare, selon les traductions. Donc nos ancêtres, les Gaulois, étaient des sauvages ou des barbares. Donc c'est pas, il n'y a pas une connotation négative comme aujourd'hui. Le verset 9 condamne le mensonge, quel que soit le cadre, et en particulier celui de l'Église. Alors le mensonge peut évidemment être une contre-vérité émise délibérément, mais cela peut être aussi une demi-vérité ou une exagération, comme à Marseille, la sardine qui a bouché le porc. C'est vrai en plus, oui. Il peut se manifester aussi sous forme d'hypocrisie dans la manière d'être devant autrui. Et il porte gravement atteinte aux relations fraternelles et aux témoignages. Pour éclairer son discours, Paul utilise l'image du vêtement. Le « vous, vous êtes dépouillé du vieil homme » signale une action accomplie dans le passé. Le vieil homme se définit comme la créature humaine livrée, comme je l'ai répété plusieurs fois, mais je préfère exagérer sur ce point pour que ça soit bien compris. La créature humaine livrée à ses pulsions, esclave du mal, coupable et perdu avant sa rencontre avec Jésus-Christ. Le « vous avez revêtu l'homme nouveau » est aussi une action commencée dans le passé, mais qui se poursuit dans le temps. L'homme nouveau se renouvelle pour parvenir à l'image de Jésus-Christ. C'est la sanctification. C'est d'ailleurs par la sanctification, c'est-à-dire la mise en pratique de la volonté divine, que s'acquiert la vraie connaissance. Alors je dis autrement ce que Paul a dit dans ces versets. Et c'est important. La mise en pratique de la volonté divine, c'est là qu'on acquiert la vraie connaissance. Et si vous pratiquez un métier, hein, par exemple forgeron, c'est un métier qui m'épate. J'ai fait un jour de la forge ou deux jours de la forge. Je me dis, c'est un métier extraordinaire, mais pas pour moi, quoi. Eh bien, il faut commencer à apprendre, il faut recevoir des enseignements, des informations, regarder les autres travailler. Puis, à la fin de sa carrière, on a une maîtrise totale du métier. Eh bien, avec Christ, c'est pareil. Il faut marcher, apprendre à le connaître progressivement et en limitant de plus en plus, à la fin, nous avons la véritable connaissance de Jésus-Christ. Le verset 11 indique que l'humanité nouvelle en Jésus-Christ abolit la ségrégation entre les divers groupes sociologiques énumérés dans ce verset, alors même qu'il subsiste à l'extérieur de l'Église, bien sûr, des classes sociales différentes. Et aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe, où on veut distinguer les blancs, des noirs, des riches, des pauvres, des cheveux, enfin, et on attise la haine entre ces différentes communautés, mais c'est exactement le contraire de ce que nous dit Paul. Continuons avec les versets 12 à 15. Cela, il faudrait presque qu'on les apprenne par cœur. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Un petit ajout comme cela dans le texte. Alors, cette énumération dresse le pendant des vices des versets 5 et 8, bien qu'elle s'oppose surtout à la seconde série de péchés. Par sentiment de compassion, il faut comprendre la tendresse qui compatit aux peines de ceux qui souffrent, mais en même temps qui cherche à les aider. Et la compassion s'oppose à l'indifférence. La bonté. Ben, la bonté, c'est l'altruisme pur. La préoccupation de l'intérêt et du bonheur des autres. L'humilité. Alors, l'humilité, comme aujourd'hui, à l'époque de Paul, ce n'était pas une vertu très prisée. Au contraire. Mais dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, l'humilité est une vertu puisée, très, très prisée. La douceur. La douceur, elle met de l'huile, pas sur le feu, mais dans les rouages. Elle se soumet d'abord au Seigneur, aux autres ensuite. Elle fait volontiers des concessions, tant que ces concessions ne vont pas à l'opposé de ce que Dieu nous demande. C'est tout le contraire de l'esprit revendicatif qui défend ses droits à tout prix. Alors quand j'ai trouvé cette phrase... Je me suis dit que toute allusion avec des choses existantes ou ayant existé est purement fortuite. Nous avons la description de notre monde dans les choses de la terre. Enfin, la patience. La patience, dans le contexte ici, le mot grec ici indique plutôt le fait qu'elle repousse résolument le désir de vengeance. C'est la bonne réponse à la colère, à l'émotion, la colère. Plutôt que d'être brutal, agressif, faisons preuve de patience. D'ailleurs, Paul nous le dit dans d'une autre épître. Donc ces cinq vertus, ont pour mise en œuvre constante le support mutuel et le pardon. S'habiller de ces vertus que le Saint-Esprit met dans nos cœurs. Ben, c'est imiter le Maître, Jésus-Christ, celui qui a toutes ses vertus. Ensuite, au-dessus de tout, on trouve l'amour. Mais en fait, l'amour, ça recouvre tout ce qu'on vient de dire. L'amour, c'est assez général. Hein. Mais l'amour, ben, concrètement, c'est tout ce qu'on vient de dire. C'est le lien qui conduit à la perfection, qui unit les membres de l'Église pour en faire un corps et qui recouvre toutes les vertus précédentes. Enfin, les croyants sont appelés à vivre dans la paix, les uns avec les autres, mais aussi avec leurs semblables, comme on l'a prié tout à l'heure. Prions pour la paix. La paix, déjà dans l'Église, la paix entre nous. Nous avons déjà eu la paix dans notre cœur, grâce à Jésus-Christ, la paix entre, et la paix de ce monde, qui en a tellement besoin. Et notre arme, ce n'est pas les revendications. Notre arme, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est la prière. Et pour terminer, Paul insiste une fois de plus sur la gratitude. La reconnaissance. On se dit, mais Paul, je ne veux pas le rapport avec... Bon, pas grave, on va voir à la fin. Alors, on va terminer ce point, ce deuxième point. Ce deuxième point nous parle de sanctification. Et on voit que finalement, tel que l'exprime Paul, c'est la mise en pratique de la volonté divine. Et puis c'est cette sanctification qui mène finalement à la vraie connaissance de Christ. Si on ne pratique pas la sanctification, ben finalement, on ne connaîtra jamais Christ. Hein? Soyons ce que nous sommes déjà spirituellement en Jésus-Christ, en faisant passer dans notre réalité quotidienne ce qui constitue notre identité de disciple de Jésus-Christ, assis avec Christ dans les lieux célestes. Ensuite, le but n'est pas de devenir des ascètes. Comprenons bien cela. Ayons foi que la nouvelle naissance rend possible le combat frontal contre le péché. Mais je dois dire que ce n'est pas le combat le plus facile à mener. Et dans ma vie personnelle, je l'avoue, j'ai connu des échecs dans ce combat frontal. D'accord ? Donc ce n'est pas si simple, mais c'est nécessaire. Enfin, pratiquons la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, l'amour. Et renonçons à la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, la grossièreté, l'immoralité, la soif de posséder, etc., etc. Surtout, soutenons-nous mutuellement, pardonnons-nous les uns les autres et restons en paix. Alors nous venons de voir la confrontation directe contre le mal. Voyons maintenant une autre confrontation, la confrontation indirecte contre le mal. Lisons le verset 16, qu'on a lu tout à l'heure déjà. « Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantés pour le Seigneur de tout votre cœur, sous l'inspiration de la grâce. » Ce passage souligne l'importance de la proclamation, l'écoute, la méditation du message biblique dans le culte de l'Église primitive. Là, on était dans le cadre de l'Église du culte. D'où l'importance du culte. Je veux juste... Moi, j'ai un petit témoignage. Des fois, je me suis dit, à des périodes de ma vie, encore aujourd'hui, mais qu'est-ce que je vais aller faire au culte? C'est toujours le même message. Non, mais je ne sais pas si ça vous est arrivé. Je suis honnête avec vous. Je ne veux pas dire que je suis un héros de la foi. Je ne suis pas un héros de la foi, moi. Il m'est arrivé de dire... qu'est-ce que je vais aller m'embêter une heure au culte pour écouter des choses que je connais déjà? Ben là, j'ai la réponse. Dans ce cadre du culte, nous nous édifions les uns les autres. Alors je vais développer tout ça. La célébration cultuelle devient un véritable dialogue entre le Seigneur qui se révèle par sa parole et inspire la louange et l'adoration des chrétiens. C'est ce qu'on a vécu, non, aujourd'hui? C'est pas vrai? Les chrétiens qui s'enseignent et s'exhortent par diverses formes d'expression, on a eu un témoignage aujourd'hui, qui est une façon d'exhorter. Et le verset 16 expose plusieurs éléments clés. On va les prendre dans l'ordre. Premièrement, la parole de Christ. Alors évidemment, les paroles de Christ, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle du salut. Elle devrait habiter, élire domicile dans le cœur de chaque croyant. C'est la vérité pour ceinture. Dans l'armure. Cette parole rendue vivante dans nos cœurs par le Saint-Esprit constitue la nourriture de base de notre croissance. Sans elle, le croyant se trouve aussi desséché spirituellement que la plante qu'on m'a confiée pour m'en occuper. Parce que moi, je n'arrose pas, donc elle crève. Donc voilà, si nous ne nous nourrissons pas, c'est comme si nous avions une plante que nous n'arrosions jamais. Donc c'est évident qu'elle sèche, et nous aussi, par la même occasion. Deuxièmement, l'enseignement et l'exhortation. L'enseignement consiste à communiquer aux croyants ce qu'on fait là et dans la prédication, mais aussi par les chants ou par différentes interventions. C'est pour communiquer aux croyants des vérités révélées, tandis que l'exhortation, c'est l'avertissement, les réprimandes, le mettent en garde contre les tentations. Lui, en toute sagesse, signifie probablement qu'il faille éviter le matraquage. Et le conditionnement psychologique. Ben, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle l'abus spirituel. Le conditionnement psychologique, ça ne marche pas. Paul octroie une place de choix dans la liturgie au culte, au chant. Pardon, il octroie une place de choix dans la liturgie du culte, au chant. Qu'il classe en trois catégories proches, difficiles à distinguer, les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels, ou l'adjectif spirituel ici ça implique simplement que ça vient de l'Esprit Saint, d'une façon ou d'une autre. Ça ne veut pas dire que c'est spontané. Si les chants exaltent le Seigneur, ils contribuent aussi à l'édification mutuelle en véhiculant la parole et l'exhortation. Et nous avons chanté deux chants aujourd'hui, en tous les cas, qui correspondent à ce que j'enseigne. Christ suffit, c'était aussi... Colossiens 2, et en même temps que nous voulons le suivre. N'est-ce pas? Voilà. Là, ces chants, si nous apprenons ces chants, c'est, à mon avis, aussi important que la prédication, voire même plus. Le chantant à Dieu de tout votre cœur évoque l'adoration et la consécration. Les cantiques, tout en édifiant l'assemblée, montent vers le trône de Dieu comme ceux des êtres spirituels, des êtres célestes, pardon, décrits dans l'Apocalypse. Vous savez, dans les Épîtres et dans l'Apocalypse, il y a plein de cantiques. on ne fait pas attention, mais il y en a. Par exemple, j'en cite un, dans Philippiens 2, hein, il y a un cantique que chantait l'Église. Il y en a d'autres. Donc, vous voyez, les chants servent aussi à l'édification. Pour conclure ce troisième point, alors, déjà, j'espère qu'après ce petit passage, on comprend bien l'intérêt du culte. Dans le culte, la communauté s'édifie elle-même par l'apport des dons de chacun, sans pour autant exclure les ministères spécifiques de la parole, bien sûr. La parole, l'enseignement et l'exhortation, le chant, la consécration et l'adoration qui s'expriment dans le culte, finalement, c'est un dialogue, sont les éléments d'un dialogue entre Dieu et la communauté qui s'édifie spirituellement. Et en conséquence, par édification ou croissance, j'entends qu'on ressemble la croissance ou l'édification, c'est qu'on devient de plus en plus semblable à Christ. Donc, par conséquent, cela nous aide indirectement, chacun d'entre nous, à combattre le péché et le mal en nous. Pour conclure ce message, je vous propose un résumé en images. Je ne sais pas si ce sera très clair. Donc tout d'abord, nous avons vu, au premier point, que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Une façon de dire que nous sommes en Christ, une nouvelle création. Puis, nous avons vu que Paul nous invite à être conformes à ce que nous sommes déjà en Christ, c'est-à-dire à lui ressembler, à l'imiter dans notre vie terrestre. D'accord ? Pour y parvenir, Paul nous invite à cheminer sur le chemin de la sanctification, cheminement rendu possible parce que nous sommes une nouvelle création. Nous avons déjà revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle, et que nous avons le potentiel pour atteindre ce but. Alors, le chemin que je vous ai mis n'est pas très droit. C'est un peu mon expérience. Et là encore, je pense que par rapport à mon expérience, il est très suffisamment droit. Parce qu'on sait que ce n'est pas simple. Alors, qu'est-ce que cela implique ? Ça implique d'abord le combat frontal contre le péché. Faites mourir et renoncez, comme nous l'avons vu au point 2. Mais ce n'est pas si facile. Il faudrait qu'on développe ce thème, ça serait un sujet très intéressant. Mais voilà, on va pas aller plus loin. Mais heureusement, nous pouvons combattre le péché de façon indirecte, comme nous l'avons vu au point 3, dans le cadre de la relation communautaire et le culte. La communauté s'édifie. Voilà. Alors, pour ce point-là, en théologie, on appelle ces moyens indirects, qu'on a vus au point 3, on ne les a pas tous vus, mais on appelle ces moyens les moyens de grâce donnés par Dieu, auxquels on peut ajouter le jeûne, la prière, etc., qui nous permettent de lutter indirectement contre le péché et le mal en nous. Alors, est-ce que j'ai tout dit ? Oui. Pour terminer, lisons le verset 17, qui est une sorte de mot d'ordre qui nous est adressé, qu'on a lu tout à l'heure aussi. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte ?» Ah, c'est mon ordinateur qui me parle. « Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Ce verset 17, le « quoi que vous fassiez en parole ou en acte » s'applique à tous les domaines de la vie du croyant et de l'Église, c'est-à-dire à la vie personnelle, comme au culte communautaire, comme à la vie communautaire, mais aussi à ce qui va suivre dans l'Épître, c'est-à-dire le témoignage chrétien, dans la famille et la société. Tout ça s'applique. Alors, on pourrait résumer cela en utilisant ce qu'on dit souvent, parfois, on dit « qu'est-ce que Christ ferait à ma place ?» On utilise cette image, c'est une image simple. Mais je vais vous proposer quelque chose d'un peu plus compliqué, mais peut-être plus précis. Puisque nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes, alors devenons ce que nous sommes déjà, soyons ce que nous sommes déjà, en s'appuyant sur la force que Dieu nous donne. Et au regard de ce que nous venons de voir ensemble, posons-nous les trois questions suivantes avant d'agir ou parler. Puis-je faire telle chose sans compromettre mon témoignage? Puis-je la réaliser au nom du Seigneur Jésus? Puis-je l'accomplir en remerciant Dieu le Père par Jésus-Christ? Voilà trois questions qu'on peut se poser quand on agit ou quand on parle. Nous retrouvons une fois de plus ici, à la fin, l'invitation à la reconnaissance. Pourquoi ? Parce que la reconnaissance, finalement, elle doit remplir l'existence chrétienne, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on lit dans l'épître aux Philippiens, dans l'épître, dans toutes les épîtres de Paul, qu'on retrouve cette idée de la reconnaissance. Voilà, j'ai terminé. Merci Seigneur, parce que nous sommes assis avec toi dans les lieux célestes. Nous sommes chacun une nouvelle création. Merci pour ton esprit qui nous aide à ressembler à Christ, à progresser sur le chemin de la sanctification, à devenir de vrais disciples. Sur le plan individuel, aide-nous, Seigneur, à combattre frontalement le péché et le mal, à renoncer à la colère, la fureur, la méchanceté, la calomnie, la grossièreté, l'immoralité, la soif de posséder. Et aide-nous à pratiquer la compassion, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, l'amour. Sur le plan communautaire, garde-nous de l'hypocrisie, du mensonge, même petit, et aide-nous à nous soutenir mutuellement, nous pardonner les uns les autres et à rester en paix. Merci Seigneur pour la communauté qui nous édifie par l'apport des dons de chacun et nous aide indirectement à combattre le péché et le mal en nous. Je te prie pour que les dons de chacun se révèlent dans cette assemblée. Enfin, aide-nous, Seigneur Jésus, à être ce que nous sommes déjà en toi, de sorte que tout ce que nous fassions en parole ou en acte soit fait en ton nom. Amen.